Imaginez recevoir une violente gifle en plein visage.
Ouais, ça commence fort.
Et pas par n'importe qui, hein, par le juge suprême, lors d'une audience officielle.
C'est inimaginable aujourd'hui.
Et imaginez ensuite que votre réaction verbale à cette agression physique, elle déclenche instantanément une émeute théologique.
Une émeute et même un complot d'assassinat.
Exactement. Un complot fomenté par 40 fanatiques, suivi d'une fuite nocturne de 70 km, le tout sous la protection d'une unité d'élite de la cavalerie romaine.
Franchement, c'est un point de départ qui défie l'imagination. Et pourtant, ce n'est que le prologue d'une bataille juridique absolument ahurissante.
C'est fascinant. Alors aujourd'hui, notre mission, c'est de décortiquer tout ça. On entame une exploration approfondie des notes de cours du docteur Craig Kenner.
Ces fameuses notes sur les chapitres 23 à 26 du livre des Actes.
C'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent, il faut vraiment mettre de côté cette image d'un texte antique un peu poussiéreux, figé dans le marbre.
Ah oui, complètement. On est loin de ça.
Ce qu'on a ici, c'est en fait un véritable manuel de survie, un manuel terrifiant de modernité pour affronter une bureaucratie hostile et corrompue.
Et c'est exactement pour ça que les sources que nous examinons aujourd'hui sont si précieuses. Elles nous offrent une radiographie, disons, très crue des systèmes de pouvoir.
Ouais, on va analyser comment un homme, l'apôtre Paul, a réussi à naviguer là-dedans.
En utilisant une intelligence rhétorique phénoménale, parce que analyser les interactions de Paul avec l'élite judiciaire de Judée et l'administration impériale romaine, ça nous oblige à regarder la réalité en face.
C'est-à-dire.
La loi, en théorie, elle est aveugle et impartiale, n'est-ce pas? Mais dans la pratique, elle peut être tordue par l'opportunisme politique.
Donc, avoir la vérité de son côté, ça ne suffit pas.
Absolument pas. C'est une leçon magistrale. Il faut impérativement comprendre les rouages invisibles du système pour y survivre.
Bon, alors, entrons directement dans le vif du sujet, décortiquons tout ça. Le chaos initial, la petite étincelle qui provoque toute cette réaction en chaîne, ça a lieu lors d'une audience locale, à Jérusalem.
Exact.
Le commandant romain de la forteresse Antonia, un certain Claudius Lysias, a arrêté Paul au beau milieu d'une émeute. Mais il a un gros problème.
Il ne comprend rien à l'affaire.
C'est ça. Il ne comprend absolument pas de quoi cet homme est accusé. Donc, il a besoin d'un rapport officiel. Du coup, il convoque le Sanhédrin, la haute cour locale, mais la séance déraille dès les toutes premières secondes.
C'est un désastre immédiat. Dès que Paul commence à parler, le grand prêtre, Ananias, ordonne à ceux qui sont près de Paul de le frapper sur la bouche.
Ce qui est d'une violence inouïe.
Et pour mettre ça en contexte, cet Ananias, qui a exercé de l'an 47 à environ 58, il est décrit par l'historien Flavius Josèphe, et même dans le Talmud, comme un homme d'une corruption brutale.
Un vrai mafieux, en gros.
On peut le dire. Ses serviteurs utilisaient littéralement des gourdins pour s'emparer des dîmes qui étaient destinées aux autres prêtres.
Ah oui, quand même.
Il était tellement haï par son propre peuple qu'il finira par être assassiné par des révolutionnaires nationalistes un peu plus tard.
Alors, je dois avouer que je suis un peu perplexe sur ce coup-là. La réaction de Paul me surprend.
C'est vrai que ça détonne.
Le juge le fait frapper, ce qui d'ailleurs est une violation flagrante de la loi ancienne du talion, et Paul réplique direct en le traitant de muraille blanchie.
Oui. Il cite le prophète Ézéchiel pour dénoncer une corruption qui se cache sous une apparence de pureté.
C'est une belle formule, c'est sûr. Mais attends, insulter le juge en pleine audience? Franchement, ça ressemble plus à une perte de contrôle totale, une sorte de mesquinerie, qu'à une manœuvre juridique brillante.
En apparence, oui.
En quoi se mettre tout le tribunal à dos l'est-il dans sa situation?
C'est là qu'il faut regarder la mécanique, psychologique et légale de cet événement précis. Après cette insulte, l'assistance s'indigne. Ils disent en gros, tu oses insulter le grand prêtre?
Et c'est là que Paul fait l'innocent.
Voilà. Il répond avec un calme assez déconcertant, je ne savais pas que c'était le grand prêtre.
Ce qui a donné lieu à pas mal de théories d'ailleurs.
Oh, pendant des décennies, des commentateurs ont interprété cette phrase au tout premier degré. Ils affirmaient que Paul devait avoir une très mauvaise vue.
Ah oui, j'ai lu cette théorie dans les notes. L'idée selon laquelle il souffrait d'une grave maladie oculaire, je crois que c'est basé sur un passage de sa lettre aux Galates où il dit un truc du genre « Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner
». C'est exactement ça. Mais c'est une théorie que le docteur Kinner démonte avec une précision chirurgicale.
Ah bon?
Oui. Dans la littérature gréco-romaine de l'Antiquité, l'expression « s'arracher les yeux pour quelqu'un », c'est juste une figure de style. C'est extrêmement courant.
Genre une métaphore, quoi.
Exactement. C'est pour exprimer un dévouement absolu. C'est l'équivalent antique de notre expression moderne « donner sa chemise ». Donc, prendre ça pour un diagnostic médical, c'est un anachronisme de lecture massif.
D'accord. Donc, on oublie le diagnostic ophtalmologique. S'il n'est pas myope au point de confondre le juge avec un simple garde, bah pourquoi dit-il qu'il ne l'a pas reconnu ?
La clé, en fait, elle réside dans le contexte administratif de cette réunion. Ce n'est pas une session officielle du tribunal dans le temple. C'est une réunion d'urgence convoquée à la hâte par l'occupant romain.
Donc le protocole n'y était pas.
Voilà. Par conséquent, Ananias ne portait très probablement pas ses lourds vêtements sacerdotaux officiels.
Ah.
Et de plus, à cette époque, il faut savoir que les gouverneurs romains nommaient et révoquaient les grands prêtres un peu à leur guise, ce qui minait totalement leur légitimité sacrée aux yeux du peuple.
Je vois. Donc l'affirmation de Paul, c'est pas une excuse, c'est un sarcasme juridique dévastateur.
C'est un trait de génie.
Si je comprends bien, c'est comme s'il avait militarisé une infraction au code vestimentaire. C'est un peu comme se présenter au tribunal aujourd'hui. Le juge est en tenue de ville, il vous gifle et vous exploitez la faille en disant « Oh, excusez-moi, vu que vous ne portez pas votre robe de magistrat, que vous êtes nommé par une puissance étrangère et que vous venez d'ordonner une agression illégale, bah j'ai simplement déduit que vous ne pouviez pas être le vrai juge. »
C'est exactement ça. Il détruit l'autorité morale du tribunal en quelques mots.
C'est brillant.
Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il utilise la technique rhétorique de l'éthos, l'appel à son propre caractère, à sa propre intégrité morale. Il se positionne comme le seul véritable défenseur de la loi dans la pièce.
Face à un juge qui ne l'est pas.
Exact. Mais, comprenant vite que ce tribunal de fortune ne lui rendra aucune justice de toute façon, il passe à l'offensive.
Il lance une vraie grenade, ouais.
Il observe l'assemblée. Il voit qu'elle est composée de deux factions opposées, les pharisiens d'un côté, les sadducéens de l'autre. Et là, il lance sa grenade théologique en déclarant « Je suis pharisien et je suis jugé pour l'espérance de la résurrection des morts ».
Les booms, c'est le chaos absolu dans la salle.
Totalement.
Parce que les sadducéens, qui forment l'élite aristocratique, eux, ils rejettent l'idée de la résurrection, contrairement aux pharisiens.
Voilà. En une seule phrase, il vient de transformer une coalition qui était unie contre lui en une véritable guerre civile idéologique.
C'est fou. Le commandant romain doit littéralement envoyer ses soldats pour extraire Paul de la mêlée avant qu'il ne soit mis en pièces.
C'est dire le niveau de tension.
Mais bon, la manœuvre a fonctionné, il n'y a pas eu de condamnation officielle. Sauf que cette paralysie du système légal entraîne une conséquence terrible.
Oui, puisque la voie juridique est bloquée, les ennemis de Paul se tournent vers une solution beaucoup plus sombre, l'assassinat.
On bascule dans la violence pure et dure. Plus de 40 jeunes hommes prêtent un serment funeste. Ils jurent de ne ni manger ni boire avant d'avoir tué Paul.
C'est une violence extrajudiciaire glaciale.
Alors, petite note de bas de page, tu me fais toujours sourire avec ce genre de serment très dramatique dans l'Antiquité. Ils se laissaient toujours une porte de sortie. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
S'ils échouaient, ils n'allaient pas vraiment se laisser mourir de faim. Un rabbin pouvait, selon certaines règles bien précises, les libérer de leurs vœux.
C'est pratique.
Mais même avec cette petite faille contractuelle, disons, la menace reste d'une précision redoutable, non ?
Très redoutable. Surtout parce que la géographie même de Jérusalem jouait en leur faveur.
C'est-à-dire ?
Pour amener Paul de la forteresse Antonia jusqu'à la salle du conseil, il n'y a que 300 à 450 mètres. C'est très court. Mais ce chemin serpente à travers des ruelles extrêmement étroites.
Le terrain idéal pour une embuscade.
Exactement. Les conjurés voulaient simplement demander un nouvel interrogatoire. Et dans ces ruelles, une attaque éclair ciblant directement le centre de la colonne militaire romaine, c'était tactiquement viable.
Même contre des soldats romains.
Oui, parce que ces jeunes hommes étaient nourris par un zèle nationaliste extrême. Ils étaient tout à fait prêts à mener une attaque suicide en se considérant comme des martyrs.
Mais heureusement pour Paul, le complot fuite, c'est courant à l'époque. Le propre neveu de Paul apprend l'existence du plan et court avertir le commandant romain Lysias.
Et la réaction de Lysias est immédiate.
Mais c'est là que ça devient complètement dingue. La réponse romaine me stupéfie. Lysias décide d'exfiltrer Paul en pleine nuit. Très bien, mais regardez les effectifs.
C'est massif.
Ils mobilisent une infanterie lourde, des lanciers et même de la cavalerie pour une marche forcée jusqu'à la ville d'Antipatrice. On parle d'une distance de 55 à 70 kilomètres.
Oui, c'est une sacrée trotte.
Attends une minute. Mobiliser plusieurs centaines de soldats d'élite au milieu de la nuit pour une randonnée nocturne épuisante, juste pour protéger un seul détenu d'une bande de 40 gars du coin, n'est-ce pas une surréaction bureaucratique totale ? On a l'impression de voir débarquer une armée entière pour une dispute de quartier.
Ça y ressemble, c'est sûr. Enfin, si l'on ignore la situation politique très explosive de la Judée de l'époque. Mais si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, ce déploiement massif n'est pas du tout une surréaction.
Ah bon? C'est quoi alors?
C'est de la gestion des risques, pure et dure. C'est de l'ingénierie préventive de la part d'un officier qui cherche avant tout à sauver sa propre carrière.
Ah, je vois.
À ce moment précis de l'histoire, la région est infestée de sicaires. Ce sont ces assassins qui frappent au poignard dans la foule. Et les embuscades nocturnes contre les troupes romaines se multiplient.
Donc, le commandant sait très bien que la route est un coupe-gorge.
Et surtout, il sait que Paul est un citoyen romain de naissance.
Le détail qui change tout.
Exactement. Si ce citoyen meurt lynché sous sa responsabilité, pendant un transfert qu'il a lui-même ordonné, Lysias est politiquement fini.
Et peut-être même littéralement un homme mort face à ses supérieurs.
C'est fort possible. Il déploie donc une force tellement écrasante qu'elle dissuade absolument toute tentative d'attaque. Et puis, sur le plan logistique, une marche forcée nocturne de 70 km en descente depuis Jérusalem, ça faisait partie des standards d'entraînement intensif des légions.
Donc ça les gardait en forme en plus.
Voilà. Pour Lysias, utiliser l'armée comme un bouclier impénétrable, c'est finalement le seul calcul rationnel.
Et ça marche. Cette exfiltration impressionnante permet à Paul de survivre physiquement. Il est livré au gouverneur romain, à Césarée.
Mais l'ironie, c'est qu'il passe d'un danger de mort physique immédiat à un danger bureaucratique peut-être encore plus toxique.
Ouais, il tombe de Charybde dans Scylla. Il atterrit dans la salle d'audience hautement corrompue du gouverneur Félix. Et là, j'avoue avoir une incompréhension majeure par rapport à ce Félix.
Dis-moi.
Dans mon esprit, les gouverneurs romains, ce sont de riches aristocrates, des patriciens, obsédés par l'ordre juridique, la loi impériale. Comment ce tribunal de province a-t-il pu devenir un tel nid de corruption?
C'est une excellente question. Et la réponse réside dans le profil très atypique de ce Félix. Il n'est absolument pas un noble patricien. En fait, Félix est un affranchi. C'est un ancien esclave.
Attends, vraiment? Un esclave devenu gouverneur d'une province romaine? C'est possible, ça?
C'est rarissime. Mais il a accédé à ce poste de pouvoir grâce à l'influence démesurée de son frère, un certain Pallas. Et Pallas, c'était le favori à la cour impériale de Claude puis de Néron.
Le piston à son plus haut niveau.
Exactement. Et l'historien romain Tacite décrit Félix avec un mépris retentissant. Il affirme qu'il, je cite, « exerçait le pouvoir d'un roi avec l'esprit d'un esclave ».
Ça pique.
C'est clair. C'est un homme brutal, profondément cupide et totalement dépourvu de la retenue morale qu'exigeait l'aristocratie romaine traditionnelle.
D'accord, on a le portrait du prédateur politique. Et c'est devant lui que Paul doit faire face à un avocat professionnel, un orateur nommé Tertulle, qui a été engagé par la cour de Jérusalem.
Un avocat très flatteur, d'ailleurs.
Oui. Tertulle utilise à fond la captatio benevolentia, l'art de se concilier le juge. Il flatte Félix avec insistance sur la prétendue paix qu'il maintient, ce qui est franchement risible vu la violence qui règne dans la province à ce moment-là.
C'est sûr.
Mais la défense de Paul, là, on assiste à une véritable dissection chirurgicale de l'accusation. Il commence par un exorde très respectueux mais factuel. Ensuite, il passe à la narratio, l'exposé des faits, et il s'appuie sur une donnée temporelle incontestable. Il n'est arrivé à Jérusalem que depuis 12 jours, pour la Pentecôte.
Et ces 12 jours sont le pivot de sa défense légale. Pourquoi ? Parce que Paul démontre qu'il est temporellement et physiquement impossible d'organiser un soulèvement à l'échelle de toute la province en moins de 2 semaines. Surtout en ayant passé la majeure partie de ce temps à se purifier dans le temple pour des raisons de piété.
C'est mathématiquement impossible.
Voilà. En faisant ça, il détruit totalement l'accusation de sédition politique.
Mais ce qui me fascine le plus, c'est vraiment son coup de grâce. Il avoue publiquement un acte. Il dit « J'adore le Dieu de nos pères et je crois en la résurrection ».
Oui.
Il confesse exactement le point de doctrine qui rend ses accusateurs furieux. En quoi avouer ce qui vous a conduit au tribunal est-il une stratégie gagnante? Ça paraît contre-intuitif.
Ça l'est. Mais c'est parce qu'il confesse un non-crime. En droit romain, croire en la résurrection ou appartenir à une secte spécifique du judaïsme n'était absolument pas une infraction pénale.
Ah, malin.
En avouant, entre guillemets, un acte parfaitement légal, il vide l'accusation de sa substance. Ça renforce même sa crédibilité.
Son fameux éthos.
Exactement. Mais son argument le plus meurtrier est procédural. Dans le système judiciaire romain de l'époque, la présence physique des accusateurs directs était obligatoire.
Ce qu'on appelle cognitio extraordinem, si je ne m'abuse.
Tout à fait. Et ceux qui avaient prétendument vu Paul profaner le temple, c'était des juifs de la province d'Asie. Or, ils ne sont pas présents au tribunal.
Ils ont disparu de l'équation.
Et Paul souligne fortement cette absence. Sans témoin à charge direct, en droit romain, le magistrat est techniquement obligé de rejeter l'affaire sur le champ pour vice de procédure.
C'est échec et mat.
L'avocat adverse, Tertulle, est complètement neutralisé.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. La victoire juridique est absolue sur le papier. Le dossier est vide, la procédure est caduque. Et à cela s'ajoutent des entretiens privés lunaires. Paul est convoqué par Félix et son épouse, Drusille.
Ah, Drusille, un vrai feuilleton.
N'est-ce pas ? Drusille, rappelons-le, est une princesse juive. Et Félix l'a littéralement séduite et arrachée à son ancien mari avec l'aide d'un magicien chypriote.
Un couple très charmant.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et Paul, plutôt que de négocier sagement sa libération pendant ses entretiens, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à prêcher la justice et la maîtrise de soi devant ce couple au mariage scandaleux et immoral.
Il n'a pas froid aux yeux.
Les textes disent que Félix et Drusille étaient terrifiés par ses discours. Alors j'ai une question très pointue. Paul joue une partie d'échec juridique parfaite. Il pointe du doigt l'absence des témoins. Il avoue un acte qui n'est même pas illégal. Si Paul gagne sur le plan juridique et qu'il terrorise moralement le juge, pourquoi Félix ne le laisse-t-il pas simplement sortir libre s'il n'y a pas de dossier ?
Parce que, et c'est là le drame, nous sommes face à l'essence même de la corruption institutionnelle. Dans ce monde-là, la logique juridique cède face à l'opportunisme.
L'argent prime sur la loi, c'est ça ?
Toujours. Félix laisse délibérément Paul croupir en prison. Il le maintient en détention provisoire pour deux raisons cyniques. Premièrement, il espère bêtement que les réseaux de Paul paieront un pot de vin substantiel.
C'est pathétique.
Et deuxièmement, Kulik sait qu'il est détesté par les élites judéennes à cause de sa cruauté. Donc, garder leur ennemi public numéro un sous les verrous, c'est un cadeau politique gratuit. Il fait une faveur aux autorités locales.
Donc Paul paye le prix fort de cette magouille.
Il le laisse croupir en cellule pendant des années, jusqu'à ce que lui-même, Félix, soit finalement rappelé à Rome pour répondre de graves accusations de corruption.
Ce qui nous propulse directement dans la dernière phase de notre analyse. Félix disparaît, bon débarras, mais il laisse un cauchemar bureaucratique, un vrai cadeau empoisonné, à son successeur.
Le nouveau gouverneur, Festus.
Festus, qui lui semble être un bureaucrate romain beaucoup plus classique. Pragmatique, soucieux du droit. Mais il hérite d'un citoyen romain de haut rang, incarcéré depuis des années sans aucune charge légale claire.
Et Festus est complètement dépassé par les nuances religieuses du dossier.
Totalement. L'élite de Jérusalem fait pression. Ils veulent juger Paul localement. En fait, ils veulent l'assassiner en route, on connaît la chanson.
Et Festus, pour apaiser les tensions, propose ce transfert à Paul.
Sauf que Paul n'est pas naïf. Comprenant que ce transfert équivaut à un arrêt de mort, il utilise son droit de citoyen. Et prononce la formule juridique suprême « J'en appelle à César ».
Une manœuvre qui gèle immédiatement toute juridiction provinciale.
Exactement. Festus est obligé d'envoyer Paul à Rome. Mais il y a un hic, et pas des moindres.
Le fameux rapport.
Voilà. Il ne peut pas l'envoyer sans un rapport officiel, un dossier. Envoyer un prisonnier à la cour de l'empereur Néron avec un dossier vide, c'est s'exposer à la fureur impériale.
C'est un suicide professionnel pour Festus.
Et c'est à ce moment critique qu'arrive la royauté locale pour saluer le nouveau gouverneur, le roi Agrippa II, et sa sœur Bérénice. Festus, qui est perdu, va se servir de l'expertise d'Agrippa sur la culture juive pour comprendre le dossier et rédiger ce rapport.
Il est d'ailleurs crucial pour ceux qui nous écoutent de bien comprendre devant qui Paul va s'exprimer.
Ah oui, le public a son importance.
Agrippa et Bérénice incarnent le sommet de l'élite locale inféodée à Rome. Et Bérénice en particulier, c'est une figure tragique dont la vie illustre bien la vacuité morale de ce monde politique.
Elle a une réputation assez sombre, non Evelyne ?
Très sombre. Elle est la cible de rumeurs d'inceste avec son propre frère. Et plus tard, elle aura une liaison tristement célèbre avec le futur empereur romain Titus.
Le fameux Bérénice de Racine.
C'est ça. Titus l'abandonnera d'ailleurs pour des raisons de simple convenance politique romaine. C'est donc devant ce public profondément désabusé, cynique et mondain que Paul livre son dernier plaidoyer.
Et là, la stratégie de Paul change du tout au tout. Puisque l'appel à César est validé, sa tête n'est plus sur le bio. En tout cas, pas devant Festus. Du coup, il passe d'une stricte défense juridique à une persuasion philosophique et religieuse de haut vol.
Il s'adapte à son auditoire.
Exactement. Il raconte son parcours en s'adressant spécifiquement à la sophistication hellénistique du roi Agrippa. Il va même jusqu'à citer Jésus en utilisant une tournure grecque tirée du dramaturge Euripide.
Il t'est dur de ruer dans les brancards.
C'est ça. Et c'est là, en plein milieu de cette envolée rhétorique brillante, que le gouverneur Festus l'interrompt en criant « Tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait perdre la raison !»
L'incompréhension totale.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que Festus est juste un bureaucrate gêné? Est-ce qu'il ne cherche pas simplement à faire taire Paul parce qu'il crée un malaise diplomatique avec ses histoires de vision et de résurrection devant le roi?
C'est vrai que c'est une lecture moderne très tentante. On s'imagine le malaise du politicien. Mais si on se penche vraiment sur la psychologie de l'élite romaine, cette accusation de folie, elle est beaucoup plus profonde que ça.
Comment ça?
Pour un aristocrate romain, éduqué dans le pragmatisme froid et le matérialisme civique, eh bien, l'enthousiasme spirituel incontrôlable est perçu comme une véritable pathologie mentale.
Ah, ce n'est pas juste une insulte pour le faire taire.
Non, c'est un diagnostic culturel, presque. À l'époque, les philosophes passionnés, les prophètes qui haranguaient les foules avec une ferveur excessive, ils étaient souvent traités de fous par l'élite au pouvoir. On le voit déjà avec des figures comme Élisée dans l'Ancien Testament. Festus est sincèrement incapable de traiter cette ferveur autrement que comme une perte de raison.
Mais Paul ne se démonte absolument pas. Il ignore presque Festus et se tourne vers le roi Agrippa pour le coincer habilement avec une question directe. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. »
La manœuvre est magnifique.
C'est un piège parfait. S'il dit non, il se renie devant ses propres sujets juifs et perd toute crédibilité. S'il dit oui, il doit admettre la validité de l'argument de Paul.
Et Agrippa est coincé, donc il esquive avec une pirouette restée célèbre. « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et hop, fin du débat.
C'est l'esquive suprême du politicien moderne.
Exactement. Et cela soulève une question importante sur la suite des événements. Lors de leur réunion privée qui suit, Festus et Agrippa font le point.
Et que disent-ils en coulisses?
Ils tombent d'accord. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Ils conviennent de son innocence.
Mais c'est dingue! On a vraiment l'impression d'assister à l'hypocrisie totale. C'est comme si Festus disait « Oh, vous avez fait appel à la Cour suprême? Génial, ce n'est plus mon problème. Emballez-le pour Rome, je m'en lave les mains. » S'ils savent qu'il est innocent, pourquoi ne pas le libérer?
Parce que cet appel à César arrange tout le monde politiquement.
C'est la solution de facilité.
Voilà. Relâcher Paul aurait provoqué une crise majeure avec les autorités de Jérusalem. Ce que Festus, qui vient tout juste d'être nommé, veut éviter à tout prix. L'appel de Paul leur offre une échappatoire bureaucratique idéale.
Tout le monde sauve la face.
Exact. Ils respectent la procédure impériale et ils se débarrassent d'un dossier explosif sans froisser les élites locales. Ils se réjouissent de l'envoyer à Rome.
Bon, bah quel parcours fascinant on vient de vivre à travers ces sources. Du chaos calculé dans la salle du Sanhédrin, au complot nocturne étouffé par la machine militaire romaine, jusqu'aux joutes rhétoriques brillantes face à des gouverneurs empêtrés dans leur propre corruption.
C'est un véritable thriller politico-judiciaire.
Clairement. Et l'apôtre Paul a prouvé qu'une profonde connaissance de la loi et de la culture de ses interlocuteurs, c'était vraiment son armure la plus efficace.
Et c'est le grand message ici. Cela rappelle à ceux qui nous écoutent aujourd'hui l'importance vitale de comprendre les règles du jeu du système dans lequel on évolue.
Surtout quand ce système est biaisé.
Surtout là, oui. La naïveté est mortelle face aux structures de pouvoir. Avoir raison ne suffit pas, il faut savoir comment le système fonctionne pour ne pas se faire broyer.
C'est une excellente conclusion. Mais je voudrais laisser notre auditoire sur une toute dernière réflexion à méditer. On aime s'imaginer que nos institutions modernes sont des mécaniques cliniques, froides et impartiales, n'est-ce pas, Evelyne ?
On aime le croire, oui.
Mais quand on y pense, si un homme dont l'innocence est prouvée et même reconnue en privé par les plus hautes sphères locales doit tout de même faire appel à la plus haute autorité de l'Empire uniquement pour ne pas être assassiné sous couvert de justice, que cela nous dit-il sur la fragilité de la notion même de justice dans nos propres sociétés hautement bureaucratisées?
C'est une question qui dérange.
Sommes-nous si sûrs d'avoir vraiment asséché ce marécage? Je vous laisse y réfléchir.